soir, deux thèmes pour le débat de ce soir. Nord Kivu, 10 morts dont 7 femmes et 3 hommes et plusieurs bétails importés. C'est le bilan encore provisoire de l'attaque de mardi dernier des EDF dans la localité de Kokola à Beni, alors que les FRDC ont lancé depuis le 29 octobre dernier des opérations contre les groupes armés dans cette partie du pays. Gratuité de l'enseignement des bases, les enseignants de la province éducationnelle EPST Kwilu 1 observent une grève sèche depuis lundi dernier dans les Haut-Katanga. Les enseignants de quelques écoles conventionnées catholiques de la ville de Lubumbashi ont amorcé un mouvement de grève depuis lundi dernier également. Et au Maniema, certains enseignants de Kindu jugent utopique la gratuité de l'enseignement des bases. Tels sont les thèmes d'entrevue de la presse de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Thierry Bongo. Il est journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa. Bonsoir Thierry Bongo. Pius Romain Roland Ngoy, éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes, paraissant à Kinshasa. Bonsoir Pius Romain Roland Ngoy.
Bonsoir Dimaté.
Et Jean-Pierre Moutamba, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire Vox Ubangi, paraissant à Guémena, dans la province du sud Ubangi. Bonsoir Jean-Pierre Moutamba.
Bonsoir Dimaté, bonsoir à mes confrères au studio ou bien mes confrères qu'on est ensemble pour l'animation de cette
émission. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant tout, on va écouter comment la presse quinoise a traité l'actualité de la semaine à travers cette revue de presse que nous propose Kéline Couté.
Bonsoir. En dehors des thèmes retenus pour vous ce soir, la revue de presse La Semaine est revenue sur plusieurs sujets d'actualité, notamment politique. Il trône au sommet de l'État depuis la présidentielle de décembre 2018, mais il garde toujours les yeux rivés sur le prochain round électoral de 2023. À l'instar d'autres formations politiques qui affûtent déjà leurs armes, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne ménage pas sa monture, fait remarquer le potentiel qui cite des indiscrétions glanées dans les milieux de l'UDPS. Selon ses sources, un projet est mis en place pour fédérer plus de forces politiques autour de l'UDPS pour créer une majorité présidentielle populaire, MPP, celle qui accompagnera Félix Tshisekedi en 2023. Le Phare s'intéresse aux commissions de l'Assemblée nationale et informe que Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Pierre Lumbi se partagent les postes. C'est le compromis auquel sont parvenus mercredi 6 novembre sous la supervision du rapporteur de la Chambre basse. Forum des As renseigne pour sa part que Martin Fayoulou réitère sa proposition de la mise en place d'une institution dénommée au Conseil national des réformes institutionnelles, dont l'opposant propose la direction de la plateforme Lamouka pendant une période de 18 mois environ avant l'organisation d'élections générales anticipées. Affaire Dolly Makambo, 7 sur 7.cd, renseigne que les députés provinciaux étaient réunis en séance plénière lundi 4 novembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et durant la dite séance, la question relative à la suspension du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières était évoquée par le bureau de l'organe délibérant de Kinshasa, indique le site web. Après vote, 20 députés sur 38 présents ont rejeté la suspension du ministre précité. Ces élus provinciaux considèrent que le sort de Dolly Makambo dépendra du verdict des juges de la haute cour militaire, étant donné que le procès est en cours, conclut le portail. Mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa est d'accord pour que des poursuites soient engagées contre le ministre provincial de l'Intérieur, note le potentiel. Justice, toujours, congomedia.com informe que les juges de la Cour pénale internationale ont rendu jeudi 7 novembre leur verdict dans le procès de l'ex-chef de guerre congolais, Bosco Ntaganda. Après l'avoir reconnu coupable des 18 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la province de l'Ituri entre 2002 et 2003, il écope de 30 ans de prison. Surnommé Terminator, il est accusé d'avoir commandité des meurtres, pillages, viols et enrôlement d'enfants soldats, crimes commis par ses troupes entre 2002 et 2003 dans la province de l'Ituri au cours d'un conflit qui a coûté la vie à plus de 60 000 civils selon plusieurs ONG international. Il avait donné les ordres, planifié et programmé les opérations, coordonné la logistique et fourni les armes à ses troupes.
Merci, Kéline Couté. Un petit commentaire, Thierry Bongo, journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa. L'actualité de la semaine était abondante. Vous commentez quelle actualité ce soir?
L'actualité, vous l'avez dit, certes, était très abondante. Je vais commenter particulièrement
le remue-ménage qui règne au sein de l'opposition au niveau du Parlement, qui laisse entrevoir une classe politique qui déçoit de plus en plus la population. J'aimerais relever cet aspect des choses, notamment du fait que ceux qui ont, pendant un certain moment, incarné l'espoir pour toute une nation de contrepoids vis-à-vis de la machine que représente aujourd'hui l'alliance FCC-CACH, nous démontre une fois de plus que l'espoir sur les acteurs politiques de la RDC est vraiment un espoir vain. Alors, je crois qu'à travers ma petite intervention ici, j'aimerais demander à tous ces caciques de l'opposition qui, pour un certain moment, pour certains d'entre eux, représentaient une forme de quintessence ou de qualité en termes de propositions politiques, qu'ils puissent se mettre autour d'une table et de présenter une meilleure feuille auprès de la population. Autrement, j'aimerais aussi appuyer un fait, ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa avec la recrudescence des violences commis par les taxis-motos communément appelés Wewa, nous constatons avec beaucoup de regret que Kinshasa est en train de traverser une vague de auto-justice qui est administrée par ces conducteurs de motos. J'aimerais rappeler à nos frères qui font ce type de trafic qu'ils sont soumis à la loi comme tout le monde et que personne en RDC ne peut se faire justice. Même si aujourd'hui la justice présente beaucoup de failles, il en revient à sa seule justice elle-même de pouvoir administrer et faire dire le droit.
Merci à vous Thierry Bongo. Pius Romain Rolangoy, éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes, paraissant à Kinshasa. Vous choisissez quelle actualité ce soir?
Bon, je pense que mon confrère et ami Thierry m'a dévancé un peu. Je voulais commenter justement ce qui concerne le comportement de ces motocyclistes qu'on appelle communément Wewa. Je pense que les autorités provinciales de Kinshasa ou le gouvernement central doit prendre des mesures adéquates pour encadrer ces jeunes gens. Vous vous souviendrez que j'avais écrit il y a longtemps, juste quand ce phénomène a commencé, j'avais déploré ce type de comportement, j'avais dit qu'il fallait recenser ces jeunes gens, les doter de structures ou même les parlementaires qui sont là, qui doivent élaborer une loi qui doit réguler ce secteur. C'est un nouveau secteur, c'est un nouveau phénomène socio-économique. Évidemment, ils aident les paisibles citoyens vu la détérioration de nos infrastructures. Quand même, ces motocyclistes arrivent jusqu'à destination finale plutôt qu'avec les taximens qui s'arrêtent juste sur ces arrêts. Donc c'est un nouveau phénomène qu'il fallait encadrer. Mais ce nouveau phénomène ne doit pas se muer en justice, rendre justice à tout mouvement qui se passe à Kinshasa. Et avant que je ne vienne ici dans le Lualaba, à Kolwezi justement, j'avais assisté à une scène qui s'était produite juste sur l'avenue Kasavubu. J'ai vu comment on avait brûlé les bus, quand bien même ils avaient raison du fait qu'on avait tué un des leurs, mais ils ne doivent pas rendre justice. Du fait d'abord de brûler les deux bus, vous savez ce que ça pèse sur le tissu économique de notre pays. Il y a une justice au Congo, et Thierry l'a dit, qu'elle soit ce qu'elle est, et si vous n'avez pas de problème avec la justice ne viendra jamais vous chercher chez vous à la maison.
Merci.
Et la justice aura des problèmes avec vous lorsque vous la provoquez. En ce moment-là, vous allez savoir que la justice existe.
Merci Pius Romain Rolangoy. Jean-Pierre Mutamba, journaliste et directeur des publications de l'hebdomadaire Vox Ubangi, paraissant à Gemena, dans la province d'Izidoubangi. C'est quoi l'actualité qui domine aujourd'hui à Gemena?
Ouais, merci Guy Maté. L'actualité qui domine Gemena, le Sud-Ubangi en général, et le problème lié à l'inondation, comme vous savez, partout dans le pays, là où il pleut, et surtout dans les Sud-Ubangi, il pleut abondamment, presque chaque jour. Ça fait au moins plus de 7 jours déjà, nos compatriotes, plus de 50 000 personnes vivent sans abri dans la ville de Zongo, dans la cité portuaire de Libenge et Dongo. Et pour essayer de venir en rescousse à tous ces sinistrés, le gouvernement provincial multiplie des stratégies dans le but d'assister les multiples sinistrés d'eau de la pluie, les Congolais, les Sud-Ubangais qui sont inondés. Et en outre aussi, nous avons appris ici à Gemena que nos sénateurs et députés nationaux du Sud-Ubangi c'était Réni, mercredi, aussi les jeudis, voir le gouvernement central pour essayer d'apporter son apport. En outre, la seconde actualité est qu'un joli coup de filet pour la police nationale de la province du Sidoubangui, dirigée par le général Galinga. Il venait tout de suite là, ça fait parce qu'il y a eu braquage d'un agent père de la Caritas qui se rendait dans le secteur de Nguya, dans le territoire de Guémena, pour le paiement des enseignants. Et subitement, cet agent a été braqué et ils l'ont ravi près de 51 millions. Et les informations en notre possession nous précisent que l'un de ces trois braqueurs a été arrêté par la police et se trouve entre les quatre murs noirs d'Anguenga de Guémena. Et c'était seulement le montant de 13 millions et quelques qui a été
retrouvé.
Donc voilà un peu l'actualité d'ici Sidoubangui.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Nord Kivu, 10 morts dont 7 femmes, 3 hommes, plusieurs bétails emportés. C'est le bilan encore provisoire de l'attaque de ce mardi de ZDF dans la localité de Kokola, à environ 60 km au nord de la ville de Beni, en groupement Babumba, Kisiki, territoire de Beni. Les détails avec Sekombi Katondolo.
C'est aux environs de 20h locales d'hier mardi que ce rebelle de l'ADF ont fait incursion en provenance de la partie ouest de cette localité de Kokola, renseignent les sources locales. Contacté, le président de la société civile locale donne un bilan provisoire des 10 personnes tuées, dont 7 femmes et 3 hommes et une fille de 16 ans portée disparue et plusieurs autres biens dont le chèvre et poule ont été pillés par ce rebelle qui aurait opéré pendant plus d'une heure avant de se retirer de ces villages. Nous avons essayé de joindre les autorités militaro-administratives de la région, mais nos efforts jusqu'à présent n'ont pas encore abouti. Pour sa part, la société civile du territoire de Beni appelle l'armée à plus de vigilance à cette période où elle vient de lancer les offensives contre les groupes armés et lui demande de ne pas négliger les alertes lui données par la population sur le mouvement de présumés rebelles dans la zone. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Merci à vous, Sekombi Katondolo. Au cours d'une conférence de presse jeudi 31 octobre à Beni, le porte-parole des FRDC, le général-major Léon Kasonga, avait annoncé le lancement depuis la veille des opérations offensives de grande envergure contre tous les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, notamment les EDF. Toutes les ressources sont disponibles pour permettre aux FRDC de mener ces opérations dans les bonnes conditions, a indiqué le général-major Kasonga, soulignant que cette offensive était la dernière pour apporter la paix à la population. Thierry Bongo, journaliste à Africa TV Télévision qui émet de Kinshasa, quelle est votre lecture par rapport à cette situation d'insécurité qui sévit au nord Kivu?
Malheureusement, je fais le constat malheureux que la guerre au Kivu n'est plus une actualité, c'est devenu pratiquement un vécu quotidien. Je constate avec vous que on est à une énième annonce d'une opération militaire et bizarrement, à chaque fois qu'on fait des annonces sur les opérations militaires, les résultats, in fine, ne sont pas toujours ce qu'on attend de mieux par rapport à ce qu'on attendait justement de l'opération des FRDC. Les seules opérations qui ont peut-être été couronnées de succès ont été les opérations qui étaient menées sans annonce, sans pompe. Et voilà, à la fin, on a eu des résultats probants, même si à la fin aussi, les personnes qui étaient responsables en charge de ces opérations n'ont plus survécu. Bon, les FRDC annoncent qu'ils vont attaquer les forces négatives. C'est bien bon. Il y a une partie pédagogique que j'apprécie beaucoup, c'est celle de leur dire de déposer les armes avant qu'on ne frappe. C'est bien bon, mais il faut reconnaître aussi que c'est un petit peu trop paternaliste de la part de l'armée qui n'a pas ce rôle-là. L'armée a juste le rôle de défendre les intérêts de la République. Et quand ces intérêts sont identifiés, clairement identifiés, ils doivent attaquer, même si cette menace est constituée de fils du pays. L'armée a le devoir d'attaquer et de sécuriser tous les citoyens. Alors, je suis dans le regret, peut-être un petit peu, bon, mi figue mi raisin, je constate que on a été dans un élan un petit peu paternaliste, en voulant annoncer qu'on va attaquer, qu'on va frapper, déposer les armes. tout en sachant que toutes ces forces négatives étaient sur le sol congolais depuis plusieurs années et ils ont sévi, commis des meurtres et des crimes sur le sol congolais depuis longtemps. Donc l'armée a fait le choix de faire la communication avant d'attaquer. On attend les effets réels, c'est donc l'éradication de toutes ces forces négatives, et ce n'est qu'après qu'on pourra se dire, voilà, félicitations messieurs les hommes en uniforme, vous avez accompli votre mission. Sinon, c'est le rôle de l'armée de sécuriser les populations et les frontières nationales.
Merci Pius Romain Rolango, éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes, paraissant Kinshasa. Alors que les opérations militaires sont en cours contre les groupes armés dans cette partie du pays, voilà que les mêmes groupes armés continuent à tuer dans Beni. Et là, c'est 10 civils qui viennent d'être fauchés une fois de plus par les EDF. N'est-ce pas un paradoxe?
Oui, tout à fait, c'est un paradoxe. Vous vous souviendrez, Guimaté, j'avais déploré cette situation, cette communication des forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne fallait pas annoncer les opérations qui devraient se faire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, lorsque vous êtes en face d'un ennemi et que vous l'alertez, vous le signifiez déjà que nous sommes en train de venir. Or, l'armée doit se comporter comme un voleur. Un voleur annonce que je viendrai voler. Il surprend. Et c'est ça ce que notre armée devrait faire. Et cette guerre, je pense, Thierry l'a dit, ce n'est plus de l'actualité. Ça commence à jaser, ça commence à faire mal du fait que nous avons nos compatriotes qui meurent là-bas. Des suites de groupes armés étrangers, et il ne faut pas se voiler la face. Il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda qui jouent un très mauvais rôle dans cette de la République, juste pour déstabiliser l'est de la République, afin de piller le minerai. Je pense que nous avons une bonne armée. Et notre armée, il suffit tout simplement de l'équiper. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'avait dit qu'il fallait déplacer l'État-major à l'est de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'on attend pour déplacer cet État-major à l'est de la République démocratique du Congo? Mettre fin à des recrudescences de violence. Les vies humaines qui viennent de se perdre là, j'ai entendu 7 femmes, 3 hommes et les enfants. C'est des trop. Je pense que la République démocratique du Congo doit s'inscrire dans la dynamique d'une perte de ses compatriotes qui vont disperser dans un autre camp. En ce moment-là, l'ennemi va prendre fuite et même ceux qui alimentent cette guerre vont comprendre que l'État congolais ou le gouvernement congolais ou la République démocratique du Congo en a marre avec cette guerre. Nous en avons marre. J'estime que le FARDC ne devrait pas communiquer d'avance que nous allons lancer des opérations. Voyez l'exemple du président américain. Obama. Lorsque Obama a traqué Oussama Ben Laden, il n'a informé personne, même les gens qui étaient dans la Maison Blanche, c'était une poignée de gens qui étaient informés. C'est après qu'il y ait le succès de cette opération, bien que je n'ai jamais été d'accord avec cet assassinat, après ce succès, le chef de l'État a annoncé maintenant aux Américains.
Merci.
Et voilà, l'opération a eu lieu, ceci, cela. Mais avec le FARDC, ils ne devraient pas annoncer en amont. Il fallait déjà booster le
Merci, Pius.
Et ils savent là où se trouve l'ennemi. Je pense que le FARDC et le gouvernement congolais doivent prendre des mesures pour mettre fin à ces situations.
Merci. Jean-Pierre Moutamba, journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire Vox Ubangi, paraissant à Guémena, dans la province du sud Ubangi. Vous venez de suivre Thierry Bongo et Pius Romain Rolangoy, qui semblent fustiger, n'est-ce pas, la communication des FARDC. Vous pensez que les choses se seraient passées autrement si ces opérations avaient été préparées discrètement, en secret, sans pour autant communiquer?
En tout cas, j'abonde dans le même sens que mes prédécesseurs, parce que nous, par exemple, les communicateurs, nous, par exemple, les journalistes, c'est pas nous qui allons donner des leçons aux gens de sécurité. À ce que je sache, la sécurité s'est faite en catimini. On ne devrait pas normalement commencer d'abord, on n'a pas encore gagné la guerre. On ne doit pas chanter la victoire, on ne doit pas annoncer. On sait que cette guerre de l'Est, ce n'est pas une guerre normale. C'est une guerre politisée. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce qu'il n'y a pas de taupes au sein de cette force à l'Est? Parce que Oisha, il paraît, se trouve, je ne suis pas arrivé là-bas, il paraît Oisha se trouve à 15 kilomètres de Kokola. Seulement 15 kilomètres. Et cette incursion aurait duré au moins 6 heures du temps. Au moins 6 heures du temps. Et on nous apprend encore dans les coulisses que
quelqu'un de la société civile d'Oïcha aurait informé au commandement de FRDC à Oïcha que non, les IDF se préparent pour attaquer la population. Pourquoi les commandements sur place n'avaient pas pris de mesures idoines pour protéger la population? La vie est sacrée, nous en avons marre d'ailleurs. Chaque jour, nous ici, nous suivons la radio au Capi. En aucun jour, vous ne pouvez manquer une actualité et entrer à l'Est où il y a des tueries. On tue nos frères comme des animaux. C'est anormal. Nous pensons qu'il y a des taupes. Les services de communication de notre armée à l'Est du pays doivent réellement faire son travail. Enfin, que nos vaillants combattants, nous avons des militaires, nous avons des vaillants combattants, ils fassent réellement leur travail.
Merci Thierry Bongo. Cette attaque de mardi dernier par les EDF à Kokola qui a fait 10 morts, apparemment un message de ce groupe armé à l'endroit des FRDC. Est-ce que vous comprenez ces messages?
Effectivement, il faut comprendre que au-delà de la guerre militaire, c'est-à-dire les armes qui sont utilisées, il y a aussi une guerre médiatique. Apparemment, qui a été lancé. On a annoncé, c'est de la communication, c'est pratiquement propagande. On avait les médias, on fait de la communication, on fait de la com, on fait de la propagande autour de ça. C'est pour des besoins certainement plus politiques que réels. Et après, la réponse n'a pas tardé. Les ADEF vous répondent sur le terrain. Et je crois que c'est à l'armée de pouvoir bien lire le message qui est ainsi distillé par ces groupes armés. Ce message qui dit simplement que voilà, vous pouvez tout dire, nous on restera là et on continuera nos activités néfastes. Et maintenant, c'est au FRDC de répondre, non pas dans les médias, mais sur terrain, à travers des opérations réelles d'éradication. Ce que moi je voulais relever, c'est que l'armée ne doit pas faire beaucoup de bruit. Le bruit de l'armée, c'est le son des canons. C'est le son des armes à feu. Ce n'est pas les bruits des commentaires ou des discussions dans les médias. Nous voulons les voir à l'œuvre. Cette partie de la République est une partie totalement martyre. C'est une partie où, pendant un certain moment, c'était le grenier de la République. C'était là où on pouvait y dénicher les richesses. Mais c'est là où maintenant sévit la mort, où logent les massacres, ainsi de suite. Donc, je crois que ces groupes armés, EDF, vous répond à l'appel de l'armée de déposer les armes par un non catégorique et un non macabre, un non sanglant. Et je crois que l'armée a eu sa réponse. On attend que l'armée puisse maintenant agir.
Pius Romain Roland Ngoy, la population civile ne risque-t-elle pas finalement d'être la première victime de ces opérations, la victime collatérale?
Mais écoutez, elle a toujours été victime, c'est comme le dit Thierry. La communication de FARDC ne doit pas être comme une communication dans une phase électorale. Nous ne sommes pas dans une phase électorale où il faut annoncer ce que je dois faire pour attirer la sympathie des autres. Non, nous sommes devant une guerre et cette guerre a duré pendant 20 ans. Et l'ennemi est connu. Et il est savant. D'ailleurs, je regrette le fait que j'entends qu'un membre de la société civile aurait signalé déjà que les ADF se préparent pour attaquer. Mais donc, le fait de ces dons infiltrés, ces ADF, au lieu de nous faire des communiqués à l'avance, que nous allons faire ceci, les forces de ces sont capables d'infiltrer pour qu'on sache que ces ennemis se trouvent à tel endroit pour le frapper et mettre fin à cette situation. Comment les forces de ces n'arrivent pas à infiltrer ce mouvement alors que les ADF ont des taupes? J'ai entendu Jean-Pierre dire, au sein des forces de ces, il y a des taupes. Pourquoi toutes les opérations échouent? Et lorsque les opérations échouent, et qui en sont victimes? Ce sont les civils qui sont victimes. Et justement, ce n'est pas une guerre normale. Ça devient une guerre anormale. Et comment l'humanité entière, toute l'Afrique entière, regarde ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a une zone extrêmement riche, et la population devrait bénéficier de son sol et de ses richesses, mais la population est en train d'être décimée. Alors, on ne nous amène pas à croire à cette hypothèse, on veut décimer la population de l'Est pour implanter une tribu d'air qui n'existe même pas en République démocratique du Congo. On cherche à implanter à l'Est ou créer soit une autre république qu'on appelle la République du Grand Lac. Il faudrait qu'on mette fin à cette situation. En tout cas, ça devient anormal.
Merci.
Et tout le monde déplore la situation. Je pense que nous avons une bonne armée. Il est vrai qu'au sein des FARDC, il y a des tops. Il faut que les FARDC arrivent à dénicher ces tops
Il faudrait que les FARDC arrivent à infiltrer les ADF. Pas seulement les ADF. Il y a plusieurs groupes là-bas. Il faut les infiltrer pour arriver à comprendre que ses ennemis se trouvent à tel endroit et mettre fin à ces situations. Comment les inciviques, les hors-la-loi, peuvent défier toute une république? Donc, il y a complicité.
Jean-Pierre Moutamba, les opérations viennent à peine de commencer. Et c'est vrai qu'il est encore trop tôt pour les évaluer. Mais à votre avis, que faut-il pour les rendre plus efficaces contre justement ces groupes armés locaux et étrangers?
Vous savez, les services de communication de l'armée basée dans cette partie du pays doit fonctionner réellement. Nous ne devons pas nécessairement, comme a dit mon prédécesseur, entendre tout simplement des déclarations dans des radios. Nous avons commencé. Moi, je pense que nous avons des vaillants combattants. Ils doivent nécessairement pas beaucoup parler, mais ils doivent agir. Nos vaillants combattants doivent agir. Je pense que les services de la communication, je fustige un peu ça, parce que je pense que au sein de ces groupes, au sein de ces groupes même, il doit y avoir, comme je venais de le dire, comme plus l'a dit, toujours des tops, comme il n'en manque pas partout. Mais notre armée, nous sommes derrière notre armée, et nous savons que le pays, notre pays, comme avait dit le feu Laurent, n'est jamais trahi le Congo. Le pays ici, la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, ne sera pas trahi et nous n'allons pas accepter. Nous sommes de cœur avec nos amis, nos confrères, nos concitoyens de l'Est du pays, bien que nous ne sommes pas là, mais nous partageons le même douleur qu'eux. Donc, nous les soutenons, nous soutenons notre armée, mais que ces services puissent se dérouler dans une malignité totale pour permettre de bouter hors d'état de nuire toutes ces forces négatives qui œuvrent encore aujourd'hui près de 20 ans cette partie de la République démocratique du Congo.
Merci Thierry Bongo. En plus du fait qu'il faut modifier la communication comme vous les préconisez, que faut-il encore faire pour rendre ces opérations beaucoup plus efficaces, n'est-ce pas, contre les groupes armés locaux et étrangers?
Je suggérerais à nos forces armées de pouvoir justement faire corps avec la population. Ce qui tue souvent l'armée, c'est le manque de confiance qu'ils inspirent aux populations locales. Et la collaboration avec les civils qu'ils protègent est un élément important de réussite de ces opérations. Donc, pour ma part, je souhaiterais que l'armée puisse prendre corps avec ces forces, enfin avec la population, pour débouter dehors. Parce que ces forces négatives sont clairement identifiées, comme l'a dit mes prédécesseurs, ce sont des forces négatives étrangères pour la plupart, mais aussi des forces militaires d'autodéfense locaux, et qu'il faudrait justement démanteler. Force à l'État, justement, de pouvoir mettre en devant les forces armées pour présenter la présence de l'État sur ces zones en difficulté. Mais cette présence de l'armée ne doit pas rester juste dans le sens d'opérations simplement militaires, mais aussi d'opérations de connexion entre l'État qu'il représente, la manifestation de la force publique et l'organisation, la présence des autorités qui les soutiennent. L'armée doit entrer dans ces sociétés, contribuer dans ces sociétés afin de pouvoir attirer la sympathie et la collaboration des populations. C'est un élément important. Au-delà de cela, je crois que mon confrère Puce Romain est en train de faire un petit peu de l'amalgame dans ce qui passe en gros comme ça les opérations qui se font à l'est de la République, qui sont tout à fait différentes des opérations qui se font à Minembwe dans le grand plateau du sud Kivu, que ceux qui se font à Beni au nord Kivu contre les ADF. Les forces en présence sont différentes. La façon de procéder aussi serait nécessairement différente. Je crois que les FARDC ne sont pas là pour pouvoir résoudre des conflits communautaires avec beaucoup d'implications politiques. Ils sont là pour sécuriser les populations, quelle que soit leur faciès, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur communauté. Et donc, pour ma part, je crois que l'élément important dans la réussite de ces opérations, que ce soit Nord Kivu comme au Sud Kivu, c'est cette collaboration que l'armée doit nécessairement instaurer avec les populations civiles, parce qu'il faut savoir que ces EDF, que ce soit toutes ces forces négatives, avant d'attaquer, ils pénètrent d'abord les populations, ils les infiltrent et après ils commettent des forfaits, des attaques qui sont pour la plupart des cas ciblées. Ils les ciblent comment? Parce qu'ils sont identifiés, ils se sont renseignés suffisamment. Merci. Sur les personnes à qui attaquer et ainsi de suite.
Pierre Romain Roland Ngoy, quelle approche vous proposez pour que pendant ces opérations, qu'il n'y ait pas de victimes parmi les civils, les populations civiles? Pius Romain Rolangoy.
C'est ça.
Apparemment, il n'est pas là. Ça nous permet de passer à notre deuxième thème de ce soir. Gratuité de l'enseignement des bases. Les enseignants de la province éducationnelle EPST Kwilu 1 observent une grève sèche depuis lundi dernier. Dans les Okatanga, les enseignants de quelques écoles conventionnées catholiques de la ville de Lubumbashi ont amorcé un mouvement de grève depuis lundi également. Et au Maniema, certains enseignants de Kindu jugent utopique la gratuité de l'enseignement des bases. Au Kwilu, les enseignants ont lancé ce mouvement après plusieurs démarches et réclamations auprès des autorités provinciales et nationales, démarches qui n'ont pas abouti, réclament les paiements de leur salaire des 36 mois qui, selon eux, sont coupés illégalement par les services de contrôle des payes des enseignants CCOP en sigle. Les manifestants déclarent être au bout de leur patience et fustigent le silence des autorités sur cette question. Reportage d'Irène Mboma.
Une affluence des agents et fonctionnaires de l'EPST Kwilu 1, candidat des slogans Kaliko Amé, ont manifesté devant le cabinet du ministre provincial Eric Muziazia. Sur ces Kaliko, on pouvait lire « Nous réclamons nos 36 mois de salaire car travail égale argent ». L'entrée principale ainsi que les portes des bureaux du province, de l'IPP et autres, situées à quelques mètres de là, sont restées scellées. Parmi les manifestants lésés, il y a des agents de la direction provinciale de l'EPST, du CECOP, de l'inspection principale provinciale ainsi que de différentes coordinations.
Nous sommes des agents de l'EPST, tant de la direction provinciale, de l'inspection, du CECOP et même de coordination. Pendant 36 mois impayés, pourquoi ça? On nous a élagué des listings de paix illégalement et injustement pour une cause que nous ne connaissons pas exactement. Pourquoi? Nous ne sommes pas de nouvelles unités, nous ne sommes pas des NP, mais nous sommes dans les gens qui touchaient les salaires.
Le ministre provincial qui devait s'adresser aux manifestants est resté dans son bureau de travail et ne leur a pas parlé. Nos efforts pour l'atteindre sont restés vains. Bandundouville, Irène Boma, Radio Okapi.
Merci beaucoup à vous, Irène Mboma. Thierry Bongo, nous commençons aussi encore par vous, journaliste à Africa TV Télévision qui émet de Kinshasa. Des mois après la mise en application de la gratuité, quelle est l'évaluation que vous en faites avec tous ces mouvements de grève que l'on constate dans certains coins de la République?
Bon, ma première évaluation, c'est que en prémisse, j'aimerais vous dire que j'étais parmi les personnes les plus sceptiques dans ce qui concerne la réussite de cette gratuité, parce que de par le fait qu'une telle réforme sans planification me paraissait totalement utopique, mais j'étais convaincu par les faits que, effectivement, quand un leader politique se dresse et se lève pour faire appliquer une vision, s'il est réellement un leader, la vision prend corps et se réalise. Et c'est le constat que je fais, c'est que si ce n'est pas à 100% réussi, au moins à 60%, en ce qui concerne les grandes villes, on peut se dire que la gratuité est effective. Je le vis moi-même avec mes enfants à la maison. Je n'ai pas payé le minaval pour deux d'entre eux. Je suis content. Seulement, je constate, comme vous et comme beaucoup d'auditeurs, que ce n'est pas une gratuité globale. Globale dans le sens que, malheureusement, une fois de plus, la plupart des décisions politiques s'arrêtent dans les grandes villes et malheureusement n'atteignent pas le plus reculé des endroits de la République. Nous constatons avec vous que certaines provinces sont des laissés pour compte. Dans le cadre de l'ajout que le gouvernement a eu à donner aux enseignants, nous avons constaté que des enseignants des grandes villes ont eu plus de moyens que certaines, même de certaines provinces. On l'a vécu même au Congo central. Ça n'a pas empêché la gratuité de se mettre en place. Certes, mais ce sont des couacs, voire des grains de sable dans l'engrenage qui devait mener à la gratuité totale. Alors, c'est vrai que le chef de l'État a lancé l'idée de la gratuité en faisant appel à la Constitution qui doit être respectée, mais les opérateurs du secteur de l'enseignement qui ont dû récupérer la balle au bond, récupérer le dossier en cours, ont eu à mener des investigations. Ils ont eu à vouloir organiser un petit peu cette gratuité, mais il faut comprendre que dans toute réforme, il y a toujours des côtés qui ne fonctionnent pas. Il faut comprendre aussi que l'être humain, de manière générale, est rétentif au changement. Et donc, je comprends aussi qu'il y ait quelques ratés par-ci par-là, et de ce fait, ce qui se passe maintenant ne m'étonne pas. Parce que
que déjà, il faut comprendre que c'était une vision politique qui était en train d'être matérialisée et que les éléments pour la rendre réellement effective n'ont fait que suivre l'annonce. Si c'était préparé en amont, je pense qu'il y aurait plus de des résultats. Et c'est regrettable parce qu'en réalité, il ne fallait pas attendre que le chef de l'État se lève lui-même en premier pour décréter la gratuité. Il faut comprendre aussi que l'enseignement est l'un des secteurs qui est à compétence concurrente entre le pouvoir central et provincial. Et donc, les pouvoirs provinciaux ont une part de responsabilité dans la réalisation aussi de cette gratuité. Je fustige l'attitude de ce ministre provincial qui s'est enfermé dans le bureau face au mouvement de protestation. Ce n'est pas une attitude de responsable, ce n'est pas une attitude d'un responsable, ce n'est pas une attitude d'un leader politique. Donc, pour ma part, je crois que la gratuité est une volonté constitutionnelle, donc une volonté populaire. Elle ne peut que réussir si on se l'approprie tous et que chacun puisse y faire sa part dans ce qui est à faire dans cette réforme.
Merci Jean-Pierre Moutamba, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire Vox Ubangi, paraissant à Guémena, dans la province du sud Ubangi. Thierry Bongo affirme que cette gratuité est effective dans les grandes villes. Comment les choses se passent à Guémena, où vous vous trouvez actuellement?
Guy Maté, nous commençons d'abord à féliciter cette volonté politique du chef de l'État parce que c'est une obligation constitutionnelle. Comme les politiques congolais sont habitués à bafouer ce qu'ils disent souvent à leur entrée au pouvoir, j'agir, mais ils n'arrivent pas à fidéliser ce qu'ils gèrent. Nous commençons d'abord à féliciter ça. Mais c'est comme si cette gratuité n'a pas été bien préparée. Dans les arrière-pays, nous sommes en train de souffrir. Nos enfants n'étudient plus. Ici, par exemple, dans le Sud-Ubangi, plus particulièrement à Guémena, officiellement, aucun syndicat des enseignants, des EPST, aucun des syndicats n'a déclaré une grève. Mais ce que nous constatons, c'est ridicule. Nos enfants vont à l'école, ils rentrent avant 12 heures, soit ils rentrent à 12 heures et ils vous disent qu'ils n'ont pas étudié. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des enseignants sont non payés, soit nouvelles unités. Nous avons décrié ça. La question que nous nous posons, le chef de l'État vient de respecter une volonté constitutionnelle, c'est la gratuité de l'éducation de base. Mais il y a maintenant une grande confusion partout dans le pays. Cette éducation, soit enseignement de base, c'est de première à huitième, c'est de première à sixième, on ne comprend plus rien. Et maintenant, les élèves qui étudient dans des humanités que nous appelons aujourd'hui première humanité, deuxième humanité, tout ça, nous ne comprenons pas. Ceux-là aussi n'ont pas la gratuité. Pourquoi ceux-là n'étudient pas? La gratuité, c'est au niveau primaire. Mais nous nous demandons, nos fils qui sont dans des humanités n'étudient pas. Et on se pose des questions. Et moi, j'ai pensé que les gouvernements de chaque province, les gouverneurs des provinces, pouvaient prendre des arrêtés, des mesures qui pouvaient faciliter, sauver cette année scolaire 2019-2020. Je vous dis, Guy, ça fait au moins 2 mois aujourd'hui, dans la plupart des écoles publiques d'ici, les conventionnés confondus de la place, ici à Guémena, les élèves n'étudient pas. Les élèves n'étudient pas. Et je me pose mille et une questions. Jusqu'à présent, je n'ai pas cette réponse. Que le ministre de l'EPST au niveau national essaie de préciser au gouverneur. Est-ce que la gratuité, c'est l'école en commençant par première jusqu'au niveau des humanités, on ne sait pas. Parce que nos élèves, nos enfants des humanités ne savent plus étudier.
Voilà, donc il y a une confusion. Il y a une confusion et donc cela nécessite de la part du ministre de l'EPST une certaine clarification.
Hein. Il doit le faire dans
les plus tôt seraient les mieux.
dans un court délai.
Merci Pius Romain Rolango, éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes paraissant à Kinshasa. Comment vous évaluez cette question de gratuité, hein? Il y a une certaine opinion, n'est-ce pas, qui pense que cette transition est difficile avec toutes les grèves que l'on constate, les mécontentements des enseignants, et que cette transition difficile s'explique par l'importance même de cette réforme, parce qu'il n'est pas facile de passer d'un système qui a duré plus de 20 ans sans que cela ne puisse poser des problèmes. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Pius Romain Roland Ngoy?
Bon, écoutez, je n'ai jamais été sceptique à la gratuité de l'enseignement, sauf que la réalité est tout autre. Vous savez, il y a eu des états généraux par rapport à cette question. D'abord, c'est une question qui est constitutionnelle, certes, mais il fallait partir étape par étape, processus par processus. Moi, je suis dans les deux là-bas. Avant que je passe sur vos antennes, j'ai effectué deux mouvements. À l'Institut Mutoshi et à l'Athénée d'écologie, qu'on appelle actuellement Ewabora, j'ai posé des questions. Si par exemple, un élève me dit il paye 27 000 francs, certes, c'est une école privée de la GECAMI, il paye 27 000 francs, les tiers payent 75 dollars le mois. 75 dollars le mois. Si vous faites 75 dollars le mois pendant une année scolaire, ça risque de vous prendre dans les 600 et quelques, puisque les 10 mois, ça va prendre 750 dollars. Je suis allé à Eurobora, on me dit aussi qu'il y a les élèves qui payent 5 600 et les autres payent 10 000 francs. Donc, la gratuité de l'enseignement devrait prendre le temps d'étudier comme l'a fait le gouvernement précédent. Il faut un budget conséquent. On ne peut pas aller dans cette histoire si on voulait résoudre une promesse électorale alors que la réalité sur le terrain est tout autre. Selon les experts en la matière, il fallait dégager 2 900 000 dollars pour pallier à la gratuité de l'enseignement. On regarde notre budget. Les gens peuvent dire nous avons un budget de 10 milliards. Oui. Quel sera le taux d'exécution? On peut avoir un budget de 10 milliards, mais on n'exécute que 3 milliards. Donc, il fallait étudier la question. On ne peut pas arriver à ce qui nous arrive aujourd'hui. Par exemple, dans le Haut-Katanga, à l'école Imara, hier déjà, il y avait les élèves qui étaient au gouvernement. Il y a plusieurs écoles qui n'étudient pas. Alors, vous voyez que ça risque de nous amener comme si nous passions une année blanche.
Pius Romain Rolangoy.
Les années que nous avons passées à l'époque de Mobutu, alors que là, oui.
Donc, vous estimez qu'il y a des préalables qui devaient être accomplis, mais malheureusement qui n'ont pas été pris en compte, et ça nous aurait, n'est-ce pas, permis d'éviter tous ces mécontentements, toutes ces grèves que l'on observe par-ci, par-là. Et à votre avis, que faut-il, parce que vous avez commencé à évoquer cela, parce qu'il faut sauver l'année scolaire 2019-2020, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette année scolaire 2019-2020 et permettre à ce que cette gratuité puisse atteindre l'un de ses objectifs, celui de permettre à tous les enfants à l'âge d'étudier de pouvoir accéder à l'éducation?
Tout ce qu'on a déjà amorcé le processus, moi j'aurais souhaité qu'on invite les parents et les enseignants. Qu'on dise aux parents, payez 50% et l'État va prendre 50% en charge. Là, ça peut aller. Mais si on veut aller dans cet affrontement de la gratuité de l'enseignement pour plaire à un groupe de politiciens qui estiment que cette question est facile, ça risque d'hypothéquer même le mandat. J'estime, à mon humble avis, qu'on doit reprendre les choses à main. Qu'on appelle les parents à payer soit 50%, ce qui valait les frais scolaires, et les 50%, l'État congolais peut prendre en charge. À ce moment-là, on peut sauver la situation. Et comme ça, l'année prochaine, on va voir si on peut appliquer la totalité de la gratuité de l'enseignement.
Merci Thierry Bongo. Un mot par rapport à la proposition des Pius, ça sera sur votre conclusion.
Non, en fait, je ne partage pas du tout la proposition de Pius. Le train est déjà en marche, le vin est tiré, il faut le boire. On ne peut plus reculer. Le chef de l'État a pris cette décision, on doit tout ça.
Il faut sauver l'année scolaire 2019-2020, qu'est-ce que vous proposez?
Pardon?
Il faut sauver l'année scolaire 2019-2020, vous proposez quoi?
2019-2020, je propose que les gouverneurs des provinces puissent pouvoir pallier justement à ce besoin financier que nécessite la gratuité, parce que l'éducation est aussi une des responsabilités des provinces. Et donc, les provinces, comme celle du Lualaba, ne manquent pas de moyens pour pouvoir aider justement à l'application de la gratuité dans son entièreté.
Merci.
On comprend qu'il y a des difficultés, on comprend qu'il y a des difficultés, mais cette année peut-être pourra être difficile, mais elle aboutira dans ces conditions-là. Elle va donner des indicateurs qui vont permettre aux experts de pouvoir l'améliorer l'année scolaire prochaine.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique et à Kelly Nkouté qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.